le Jingtu, terre pure, et d'autres écoles dévotionnelles. Les écoles qu'il est convenu d'appeler éclectiques, comme celle du Huayan, guirlande de fleurs, et du Tiantai, lotus blanc, présentées brièvement dans la section qui précède, avaient un inconvénient majeur. Elles plaisaient davantage aux gens qui voulaient étudier le bouddhisme qu'à ceux qui voulaient le pratiquer. C'est alors que les écoles de la terre pure et du Chan surgirent et donnèrent aux pratiquants potentiels quelque chose de facile à comprendre et de relativement simple à exécuter. C'est peut-être à cause de leur simplicité et de l'attrait général qu'elles avaient que ces deux écoles devinrent les traditions bouddhiques prédominantes en Chine, notamment après la persécution anti-bouddhiste du IXe siècle. L'école de la terre pure tire son inspiration et son orientation des sutras Mahayana qui se concentrent sur Amitabha, le Bouddha de la lumière infinie. Contrairement au Bouddha historique, Amitabha est un être transcendantal qui existe par-delà les limites du temps et de l'espace ordinaire. Son histoire transporte les adeptes bouddhistes dans un royaume de miracles et de beauté extraordinaire. Mais paradoxalement, ce royaume est aussi proche d'eux que leur propre cœur. Selon les sutras dans lesquels Shakyamuni aurait prétendument révélé l'existence du Bouddha Amitabha, Amitofo en chinois, Amida en japonais, celui-ci réside dans le paradis Sukhavati, la terre pure de l'Ouest. Toujours selon ces textes, ce paradis bouddhique fut créé à la suite d'une série de vœux profondément sincères que prononça le bodhisattva Dharmakara, qui n'avait pas encore accédé à la bouddhéité, devant son gourou. Dans ses vœux, le futur Amitabha affirma qu'il créerait un royaume sacré pour le bien ultime de tous les êtres dès qu'il aurait atteint la bouddhéité. Selon cette doctrine, lorsqu'une personne renaît dans ce royaume, celle-ci est assurée d'atteindre l'éveil complet. Et le clou ? Pour renaître dans cette terre pure, tout ce que vous avez à faire, c'est de vouer une foi inébranlable à Amitabha. Si vous faites preuve de cette foi, Amitabha et son entourage de bodhisattvas apparaîtront au moment de votre mort et vous emmèneront directement à Sukhavati, où vous prendrez place sur une feuille de lotus ouverte et où vous vous baignerez dans la lumière infinie d'Amitabha. Toutefois, si votre foi en Amitabha chancelle, vous pourrez quand même renaître dans la terre pure, mais vous devrez alors passer plus de temps dans un lotus fermé avant de pouvoir vivre les bienfaits complets d'Amitabha et de sa multitude d'êtres éveillés. Les sutras qui parlent de Sukhavati, la terre pure, décrivent ses qualités parfaites avec des détails exquis. Il donne même les instructions exactes pour visualiser Amitabha, qui est aussi rouge que le soleil couchant, et son environnement magnifique. Mais l'objectif principal de ces sutras est simplement de rappeler la compassion d'Amitabha. Il a donné jour à Sukhavati par amour pour vous. Tout le travail a déjà été fait, vous n'avez qu'à croire en Amitabha, et à vous la terre pure. N'oubliez pas. En Inde, le culte dévotionnel d'Amitabha et d'autres Bouddhas et Bodhisattvas transcendantaux formait une partie des pratiques générales du Mahayana. Mais en Chine, et plus tard au Japon, le bouddhisme de la terre pure devint une tradition à part entière, amidisme. Pour se faire une idée de l'influence que le bouddhisme de la terre pure avait, et continue d'avoir, sur la population de ces pays, il suffit de visiter quasiment n'importe quelle galerie d'art d'Extrême-Orient. Vous tomberez alors forcément sur de nombreuses représentations du Bouddha Amitabha, qu'il s'agisse de peintures ou de sculptures. Parfois, il est assis et absorbé en méditation. D'autres fois, il est représenté debout, avec les mains tendues, souhaitant la bienvenue à quiconque souhaite le rejoindre. La prière la plus fervente de millions de gens dans le monde est que ce Bouddha leur apparaisse au moment de leur mort et qu'il les conduise alors vers son paradis de la terre pure de l'Ouest. Avalokiteshvara, le bodhisattva compatissant, est étroitement associé à Amitabha. Les sutras de la béatitude suprême et de la terre pure le décrivent comme debout à la droite d'Amitabha, l'aidant à accueillir les défunts. Objet d'adoration fervente dans de nombreux pays d'Asie, Avalokiteshvara a subi une transformation extraordinaire alors qu'il voyageait de l'Inde à l'Extrême-Orient. Il s'est transformé en femme. Écoutez le passage plus loin dans ce chapitre. Les fidèles bouddhistes vénèrent ce bodhisattva transcendantal, appelé Kuan Yin en Chine et Kuan Non au Japon, comme les catholiques vénèrent la Vierge Marie. Et comme Marie, Kuan Yin continue d'intercéder en faveur des fidèles. En fait, les journaux asiatiques font régulièrement état de témoignages selon lesquels c'est elle qui aurait sauvé des fidèles de naufrages, d'incendies et d'autres désastres.
Kuan Yin, une divinité qui a changé de sexe. De nombreuses théories sont avancées pour expliquer que le bodhisattva de la compassion a pris la forme d'une femme. Certains affirment qu'en Extrême-Orient, on considère que la compassion est une qualité féminine, et donc que le changement de sexe était nécessaire d'une façon ou d'une autre. D'autres font observer que, même là où ce bodhisattva est représenté sous forme masculine, au Tibet par exemple, où il s'appelle Chenretsig, écoutez le chapitre 15, ses traits de caractère sont la douceur et la gentillesse, comme il sied à ses qualités de clémence, et qu'en conséquence, le changement de sexe ne cause pas un choc aussi extrême qu'on pourrait le craindre a priori. D'autres encore maintiennent néanmoins que Kuan Yin n'est en réalité aucune des formes d'Avalokiteshvara. Ils croient qu'il s'agit d'une fusion de Tara, la grande mère du bouddhisme indien, et d'une déesse chinoise de la nature. Quelle que soit la version retenue, des millions de bouddhistes dans le monde invoquent la bénédiction et l'aide du bodhisattva de la compassion lorsqu'ils traversent des périodes difficiles.
N'oubliez pas. Au Japon, le bouddhisme de la terre pure est devenu l'une des principales traditions du Dharma et s'est scindé en deux écoles distinctes. Le Jodo-shu, ou Jodo, signifie en japonais « école de la terre pure ». Il fut fondé par l'une des grandes figures du bouddhisme japonais, Honen Shonin, aussi appelé Zenku, 1133-1212. Honen devint moine à l'âge de 15 ans et étudia auprès de maîtres de diverses écoles bouddhistes, mais il fut de plus en plus déçu par le bouddhisme qui existait au Japon de son époque. Le XIIe siècle était une période de bouleversements et de troubles sociaux et politiques au Japon, et Honen était d'avis que personne ne pouvait avec succès observer les pratiques traditionnelles bouddhistes dans une période de telle décadence. Il croyait que les gens devaient d'abord renaître dans la terre pure d'Amitabha, depuis laquelle ils pourraient obtenir l'éveil. Il encouragea donc l'observation de la pratique simple qui consistait à réciter le Nembutsu, hommage à Amitabha, tout en cultivant une foi solide dans la grâce salvatrice d'Amitabha. Dans les textes originaux sanskrits, on trouve la formule Namo Amitabhaya Buddha, littéralement « Hommage au Bouddha Amitabha ». Avec la prononciation japonaise, cela est devenu « Namu Amida Butsu », c'est-à-dire le Nembutsu, qui est encore récité de nos jours. Le Jodo Shinshu, véritable école de la terre pure. Un moine du nom de Shinran, 1173-1262, fut l'un des nombreux disciples qui apprirent de Honen la pratique du Nembutsu. Dans sa quête fervente d'épanouissement spirituel, Shinran consacra de nombreuses années à des études et à des pratiques sérieuses auprès de nombreux instructeurs bouddhistes. Mais malgré son dur labeur, il resta insatisfait et agité. Shinran avait l'impression de ne rien avoir atteint ayant une réelle valeur. La rencontre avec Honen fut ce qui changea sa vie. Dès qu'il commença à réciter Namu Amida Butsu, il ressentit la paix qu'il évitait depuis de si nombreuses années. Dès lors, il abandonna ses vœux monastiques et passa le reste de sa vie à errer parmi les hommes du peuple, dont beaucoup devinrent ses disciples. N'oubliez pas. En 1225, Shinran fonda sa propre tradition qu'il appela Jodo Shinshu, la véritable école de la terre pure, pour la distinguer de la tradition de feu son maître. Cette nouvelle tradition devint de plus en plus populaire et elle a aujourd'hui plus de fidèles que toute autre école bouddhiste au Japon. L'approche de Shinran était d'une simplicité radicale. Il interprétait le vœu d'Amitabha comme le fait que tous les êtres sont déjà éveillés, mais qu'ils ne s'en rendent pas compte. Selon Shinran, il n'est pas nécessaire que vous fassiez quoi que ce soit pour atteindre la terre pure de l'Ouest, pas même réciter le Nembutsu. En fait, il n'y a rien que vous puissiez faire. Tout a déjà été fait pour vous. Vous rendez encore hommage à Amitabha, mais pas parce que cette pratique vous mènera à la terre pure. C'est au contraire l'expression de votre gratitude parce que vous y êtes déjà arrivé. Sous l'enseigne Buddhist Churches of America, l'école du Jodo Shinshu est active en Amérique du Nord depuis que des émigrants japonais l'y ont introduite il y a plus de 100 ans. Encore populaire essentiellement chez les Américains d'origine japonaise, le bouddhisme du Jodo Shinshu a gagné des adeptes non asiatiques au cours des dernières décennies et continue d'être un courant influent dans le monde bouddhique américain, mais aussi en France. Pour en savoir davantage sur la pratique de l'école du Jodo Shinshu, écoutez le chapitre 8. Un personnage controversé appelé Nichiren, 1222-1282, fonda une autre tradition de bouddhisme japonais qui mérite d'être mentionnée avec les écoles de la Terre pure parce qu'elles partagent toutes trois certaines caractéristiques. La dévotion. N'oubliez pas. Comme les écoles de la Terre pure, le bouddhisme Nichiren n'exige à peine plus de ses fidèles qu'une forte dévotion et la récitation d'une courte phrase d'hommage. Mais contrairement aux écoles de la Terre pure, l'école Nichiren n'est pas une version japonaise d'une tradition chinoise et elle ne dirige pas non plus la dévotion vers Amitabha. Au contraire, c'est un produit purement japonais et l'objet de la dévotion n'est ni un Bouddha, ni un Bodhisattva, c'est le Sutra du Lotus. Le Sutra du Lotus est un texte Mahayana que la tradition Tiantai, Tendai au Japon, vénère également. En tant qu'adepte de l'école Tiantai, écoutez le passage « Les grands systèmes unificateurs du Wayen, guirlande de fleurs, et du Tiantai, lotus blanc, plus haut dans ce chapitre. » Nichiren s'investissait dans sa vénération à un niveau extraordinaire. Il croyait que le Sutra du Lotus était si puissant qu'il n'est pas nécessaire de l'étudier ni même de le lire pour profiter de ses bienfaits. Pour Nichiren, il suffit de lire son titre avec foi. Répétez simplement « Namu Myoho Renge Kiyo » hommage au Sutra du Lotus de la Bonne Loi et vos souhaits spirituels et matériels seront exaucés. Et cette formule pouvait couvrir davantage que vos simples souhaits personnels. Le Japon traversait une période de troubles et Nichiren pensait que seule la foi dans le Sutra du Lotus pouvait le sauver d'une invasion mongole. La croyance inconditionnelle de Nichiren selon laquelle sa voix était sa seule véritable voie vers le salut personnel et national rencontra une opposition considérable. Il accusa les écoles bouddhistes établies d'être de mèche avec des forces démoniaques ayant l'intention de détruire le Japon, et il se fit ainsi des ennemis à la fois parmi les membres du clergé bouddhiste et parmi ceux du gouvernement. Condamné à mort, il échappa à l'exécution par des moyens miraculeux selon ses disciples. Après 3 ans d'exil, il rentra au Japon et vécut le restant de sa vie sur le mont Minobu, près du mont Fuji, durant lequel il s'employa à poser les fondements de l'organisation qui serait chargée de promouvoir son enseignement après sa mort. Écoutez le passage des ramifications de l'école Nichiren pour en savoir davantage sur les formes actuelles de la tradition Nichiren.
Des ramifications de l'école Nichiren. Peu de temps après la disparition de Nichiren, des disputes entre ses fidèles entraînèrent la formation d'un groupe dissident nommé Nichiren Shushu, la véritable école de Nichiren. De taille bien modeste au début, cette école a survécu à travers les siècles. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, l'une de ses ramifications a soudainement atteint une grande importance. En 1937, un converti à la Nichiren Shoshu fonda une organisation laïque qu'il appela Sokagakai, Société Génératrice de Valeurs. Quelques décennies plus tard, stimulée par l'humiliation et les privations de l'après-guerre au Japon, cette organisation était devenue une puissante force politique, sociale et économique. Les membres du Sokagakai suivent la pratique de base instituée par Nichiren. Ils récitent le mantra Namu Myoho Renge Kyo et considèrent Nichiren comme le Bouddha de l'époque actuelle. Sur leur autel, les adeptes disposent la reproduction d'un diagramme particulier appelé Gonzon, dessiné à l'origine par Nichiren lui-même. Réputé renfermer tous les enseignements du Sutra du Lotus et qui bénéficie donc de la vénération la plus absolue, la caractéristique la plus distinctive de la Sokagakai est peut-être son prosélytisme. Le prosélytisme n'est normalement pas une caractéristique que l'on rencontre dans le bouddhisme, mais la Sokagakai encourage activement, pour ne pas dire de façon agressive, la conversion. En ce qui concerne les chiffres, la Sokagakai remporte un succès incroyable et se targue de compter plus de 12 millions de membres, dont une partie significative de la population japonaise et des centaines de milliers d'adeptes en Occident, parmi lesquels des célébrités comme Herbie Hancock et Tina Turner. En France, la Sokagakai a été répertoriée comme secte en 1982, 1995 et 1999 par trois rapports parlementaires successifs, et elle n'est pas reconnue par l'Union bouddhiste de France, UBF. Une autre ramification du bouddhisme Nichiren est constituée par l'ordre monastique Nipponzan Myoji. Les membres de cet ordre s'engagent fortement pour la paix dans le monde et ils ont érigé des pagodes de la paix dans de nombreux pays, comme en Mandchourie, province du nord-est de la Chine, dans le reste de la Chine, au Japon, en Angleterre, en Autriche et aux États-Unis. L'une des pagodes ou stupas les plus impressionnantes est érigée sur une colline à l'extérieur de Rajagaha. Écoutez le chapitre 9, où le Bouddha prononça à l'origine le Sutra du Lotus qui est si essentiel à la tradition Nichiren. Ceux qui se rendent sur ces lieux de pèlerinage voient les membres du Nipponzan Myoji marcher selon un protocole très strict autour d'une merveilleuse pagode et frapper en rythme sur leur tambour en forme de raquette pour scander la formule sacrée « Namu Myoho Renge Kyo ».
L'école de la terre pure, écoutez le passage « Le Jingtu, terre pure » et d'autres écoles dévotionnelles plus haut dans ce chapitre, n'était pas la seule tradition Mahayana qui se consacrait à donner à ses adeptes une expérience directe de l'éveil. Une autre forme de bouddhisme Mahayana prit aussi racine en Chine, se transmit à d'autres cultures asiatiques, puis finit par faire fortement sentir son influence en Occident. Elle proposait aussi une approche plus pratique. Nous parlons du zen, dont on peut dire qu'il représente la forme la plus visible et la plus largement reconnue du bouddhisme en Occident. Le zen a la réputation d'être mystérieux. Et nous allons donc commencer cette présentation par quelque chose de simple, à savoir son nom. Le mot japonais zen, comme le terme chinois dont il est traduit chan, provient du mot sanskrit dhyana, qui signifie méditation. Jetez une oreille au chapitre 14 où nous parlons du dhyana ou de la concentration méditative comme la cinquième des six perfections du bodhisattva. Comme la méditation constitue une pratique centrale du bouddhisme depuis ses débuts, écoutez le chapitre 7, elle n'a jamais été la propriété exclusive de telle ou telle tradition. Mais alors que le Mahayana commençait à se développer en Inde, certains instructeurs mettaient davantage que d'autres l'accent sur la méditation. L'un de ces instructeurs, un moine appelé Bodhidharma, se rendit en Chine au VIe siècle et y emmena avec lui cette approche méditative particulière. Il commença son séjour en Chine de façon appropriée en restant assis en méditation pendant 9 ans face à un mur. Pour les adeptes de la tradition de Bodhidharma, qui fut appelée Chan en Chine, et plus tard Zen au Japon, la méditation est une confrontation directe avec le moment présent, et elle est capable de provoquer une vision profonde de la véritable nature de la réalité. Écoutez le chapitre 10 pour en savoir plus sur l'éveil selon la tradition zen. Le fait que l'adepte vive cet éveil spirituel ne dépend pas que de ses propres efforts, mais aussi de l'influence de transformation du maître, qui offre à ses disciples une transmission particulière en dehors des Écritures, d'esprit à esprit. Parole de sage. Le zen fait justement remonter ses débuts à l'une de ces transmissions d'esprit à esprit qui intervint entre le Bouddha Shakyamuni et l'un de ses principaux disciples. Alors qu'il était assis au milieu d'un groupe de ses adeptes, le Bouddha cueillit en silence une fleur et la montra au groupe. Assis à côté de lui, l'un de ses disciples les plus avancés, Mahakashyapa, sourit. Parmi tous les disciples, lui seul avait reçu la transmission de la vision profonde que le Bouddha avait offerte sans mots. Le Bouddha dit alors « J'ai le trésor de l'œil du véritable Dharma, l'esprit indicible du Nirvana. La réalité est sans forme. L'enseignement subtil ne dépend pas de mots écrits. Il est transmis en dehors de doctrine. C'est cela que je confie à Mahakashyapa. »
Bodhidharma, un maître de zen légendaire. Bien qu'il n'ait peut-être jamais existé réellement, le personnage du moine Bodhidharma reste le symbole même du maître de zen dur et énigmatique, dont la foi en la méditation est inébranlable, et qui enseigne par l'exemple direct plutôt que par les Écritures. Habituellement décrit comme ayant le crâne rasé, portant une barbe peu soignée et une boucle d'oreille, le Bodhidharma aux grands yeux en méditation devint un sujet populaire des dessins à l'encre, en Chine comme au Japon. Les histoires instructives relatives à ce personnage sont légendaires. L'une d'elles raconte qu'il se coupa les paupières afin de pouvoir méditer nuit et jour sans s'endormir, d'où le personnage aux grands yeux dans les dessins à l'encre. Il est clair que ce conte est censé inspirer les futures générations d'adeptes du zen à être diligents et concentrés lorsqu'ils pratiquent. Dans une autre histoire, il est assis impassiblement dans la neige alors qu'un jeune homme à la recherche du salut le supplie de l'instruire. Finalement, le jeune homme coupe son propre bras et le tend à Bodhidharma pour lui prouver sa dévotion et sa sincérité, et celui-ci accepte finalement de l'instruire. Encore un conte de mise en garde, bien qu'il ne soit certainement pas destiné à encourager l'automutilation.
Que signifie cet événement ? Il démontre que la réalité ultime peut être exprimée clairement et directement sans mots. En fait, les mots et les concepts, bien qu'ils puissent montrer la vérité, par exemple un doigt pointant vers la lune, comme le dit un célèbre proverbe bouddhique, sont mal adaptés pour exprimer complètement la vérité parce qu'ils sont intrinsèquement dualistes. Les mots et les concepts se réfèrent à un monde de choses solides, apparemment séparées, et de soi apparemment séparés qui les vivent. Mais lorsqu'un être éveillé regarde une fleur et la voit juste comme elle est, clairement et sans couche conceptuelle, c'est-à-dire au-delà de la notion limitée de ceci et de cela, aucun mot ne peut transmettre l'expérience. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de personne faisant cette expérience, ni rien qui n'ait ressenti. Tout ce qu'il y a, c'est juste cette expérience même, pure et non duale. En cueillant la fleur, le Bouddha invite les autres à partager cette connaissance non conceptuelle et Mahakashyapa exprime sa compréhension par un sourire silencieux. La prise de conscience de cette vision profonde, ni conceptuelle ni duale, est au cœur du bouddhisme zen. Tandis que la tradition de Bodhisattva se développait en Chine, où elle fut fortement influencée par le taoïsme, pour arriver ensuite en Corée, au Japon et plus tard au Vietnam, Différentes méthodes pour entraîner les disciples à découvrir leur véritable nature ont progressivement évolué. Le Rinzai, qui fut introduit au Japon en 1191 par le moine Eisai, se sert de koan, un terme que l'on peut traduire approximativement par « histoire qui enseigne », afin de désarmer l'esprit et de déclencher la vision profonde directe. Écoutez le chapitre 8 pour en savoir plus sur les koans. Parmi les centaines de ces questions et anecdotes souvent évasives et paradoxales, peut-être que les koans les plus connus en Occident sont « Quel est le bruit d'une seule main qui applaudit ?» et « Quel était votre visage avant la naissance de vos parents ?» Les adeptes focalisent leur attention tout entière sur le koan qu'on leur a donné et essayent d'en découvrir le sens caché, l'essence vivante. Bien qu'il n'existe pas de réponse correcte, la confrontation constante avec le koan, sous l'œil vigilant d'un instructeur habile, amène l'adepte du zen à la limite extrême de la pensée conceptuelle, et finalement au-delà. La formation proposée par l'école zen du Soto, une forme qui fut introduite au Japon par Dogen en 1227, se concentre sur le zazen, c'est-à-dire la méditation assise, qui est également pratiquée dans le Rinzai. Le zazen est formel et exigeant. Il requiert que l'on maintienne une posture correcte et droite pendant chaque séance de méditation, tout en restant conscient du moment présent sans interruption. Pour aider les adeptes qui fatiguent, le maître de zen peut les frapper brusquement avec un bâton qu'il porte et qui est destiné à cet usage. Bien que cela semble effrayant, le coup est en fait plus stimulant que douloureux. Les maîtres de cette tradition font souvent observer qu'on ne médite pas pour devenir un Bouddha, mais qu'en se tenant assis, le dos droit et concentré, on exprime sa propre nature de Bouddha que l'on a depuis toujours. Outre le zazen, les écoles du Rinzai et du Soto offrent aux étudiants la possibilité d'avoir des entretiens réguliers avec le maître. L'entretien en tête-à-tête avec le maître est appelé « dokusan » dans le Soto, et Sanzen dans le Rinzai. Dans l'école du Rinzai, ces entretiens prennent souvent la forme de rencontres animées dans lesquelles les disciples essaient de présenter une réponse valable à un koan et que le maître soit accepte, soit rejette. Durant les retraites, les participants peuvent s'aligner pendant des heures pour voir le maître et être rejetés dès la première minute de leur entretien avec pour instruction de retourner à leur coussin pour ruminer une fois de plus leur koan. Dans le Soto, les entretiens avec le maître ont tendance à être moins fréquents et plus centrés sur des questions relatives à la posture, à l'attitude ou à la pratique dans la vie quotidienne, bien que certains maîtres se servent aussi de koan lorsqu'ils le jugent approprié ou utile. Comme le zen accorde une grande importance au maintien d'une conscience claire du moment présent, la formation n'est pas limitée seulement aux séances de méditation ni aux efforts de résolution des koans. L'adepte doit consacrer aux tâches de la vie quotidienne la même attention focalisée que celle qu'il accorde à sa pratique plus formelle. Le Soto, en particulier, insiste sur le fait que chaque activité fournit à l'adepte une chance d'exprimer sa véritable nature à travers un soin et une attention sincère apportée à l'exécution de cette tâche. On trouve de nombreuses histoires de maîtres zen qui obtinrent l'éveil alors qu'ils effectuaient des corvées ménagères banales, comme ramasser des feuilles mortes au râteau ou étendre le linge. N'oubliez pas. La focalisation du zen sur l'aspect pratique et immédiat se reflète dans son sens esthétique austère, mais pourtant hautement raffiné, qui est devenu partie intégrante de la culture japonaise traditionnelle. Les adeptes appliquent affectueusement la même conscience et la même attention claire aux détails qu'ils cultivent dans la méditation à toute une série d'activités telles que la préparation et la cérémonie du thé, le tir à l'arc, les décorations florales et la calligraphie. Cette aptitude de transformer quasiment n'importe quelle activité en une expérience à la fois artistique et spirituelle a rendu le zen particulièrement attrayant aux yeux des artistes et des poètes occidentaux. Saviez-vous que Vincent Van Gogh, qui possédait une grande collection d'estampes japonaises, a un jour peint son autoportrait en moine zen ? De toutes les traditions bouddhiques, le zen est peut-être celle qui est depuis le plus longtemps en contact avec l'Occident, un contact que sa simplicité et son attrait esthétique ont favorisé. Que vous le croyez ou non, la première visite dont on ait encore des traces d'un maître de zen en Amérique du Nord eut lieu en 1893, l'année où Soyen Shaku assista au Parlement mondial des religions qui fut tenu à Chicago. Soyen revint en 1905 pour voyager et enseigner. Son disciple, Nyogen Senzaki, l'accompagnait et resta finalement en Amérique. Bien que Senzaki, qui mourut en 1958, n'ait eu que peu de disciples assidus, il écrivit, avec une amie américaine, Ruth McCandless, plusieurs livres qui eurent de l'influence et inspirèrent ainsi quelques Américains qui allèrent se former au Japon afin de contribuer à planter profondément la graine du zen en terre américaine. L'érudit japonais D.T. Suzuki, un autre disciple de Soyen Shaku, eut aussi une énorme influence. Il enseigna dans plusieurs universités américaines, publia une série de livres expliquant le zen à une audience laïque et traduisit en anglais des textes clés du zen. Sur les traces de Senzaki, la génération suivante de maîtres de zen japonais et coréens commença à arriver en Amérique du Nord dans les années 1950 et 1960. L'atmosphère pacifique de l'après-guerre et l'intérêt grandissant de l'Occident pour le zen furent propices à ces maîtres. La poésie beatnik d'Allen Ginsberg, de Gary Snyder, de Jack Kerouac et d'autres, ainsi que l'intérêt porté par des psychologues bien connus comme Eric Fromm, témoigne de cette conscience zen qui grandissait. En 1970, plusieurs grandes villes comme New York, Los Angeles et San Francisco étaient fiers de leurs centres de zen, des endroits où des disciples motivés pouvaient se rassembler pour apprendre et pratiquer la méditation, écouter des exposés sur le dharma et se joindre à des retraites. Le centre zen de San Francisco était probablement le plus connu de tous. Il comprend aujourd'hui le Tassajara Zen Mountain Center, qui est le plus ancien monastère zen aux États-Unis, situé à la campagne près de Big Sur en Californie, et la Green Gulch Farm, une ferme pratiquant l'agriculture biologique, qui est aussi un centre zen situé dans le Marin County proche. Le fondateur du centre de zen, le Roshi Shunryu Suzuki, 1905-1971, écrivit un best-seller de la littérature zen, Esprit zen, esprit neuf. Parmi les autres maîtres de zen influents en Amérique du Nord, on compte le Roshi Joshu Sasaki du centre zen de Mount Baldy en Californie du Sud, le Roshi Eido Shimano de la New York Zen Studies Society, le Roshi Taizan Maezumi, 1931-1996, du centre zen de Los Angeles, et le maître coréen Sung Chan de l'école Zen Kwam Hum de Providence dans l'état de Rhode Island, qui est l'auteur de plusieurs livres populaires publiés aux États-Unis. De nos jours aux États-Unis, la plupart des grandes agglomérations et même des villes plus petites ont leur centre zen ou leur groupe de méditation, dont beaucoup sont sous la direction d'une nouvelle génération d'instructeurs zen, des occidentaux qui ont été formés par des instructeurs coréens ou japonais et entièrement autorisés à transmettre eux-mêmes la formation. En raison de sa simplicité, de sa praticabilité et de l'accent qu'il met sur l'expérience directe, le zen plaît énormément aux occidentaux. Ils peuvent le pratiquer sans devoir accepter un nouveau système de croyance ou, pour reprendre une formule zen, sans mettre une tête de plus au-dessus de la leur. Dans toute la France, il existe environ une centaine de centres zen.
Le zen en Chine, en Corée et au Vietnam. La plupart des gens associent le zen au Japon, mais cette tradition a aussi fleuri en Chine, en Corée et au Vietnam. Et des maîtres de ces pays sont venus de leur propre chef en Occident pour y enseigner. Après son âge d'or en Chine, le Chan, nom chinois du zen, perdit progressivement son centrage sur la méditation et devint plus éclectique, en glanant des éléments du bouddhisme de la terre pure, du Tiantai et de plusieurs autres écoles bouddhistes. Bien que le bouddhisme ait été introduit pour la première fois aux États-Unis par des émigrants chinois dans les années 1850 et 1860, le Chan ne fit pas de gros progrès à l'extérieur de la communauté chinoise avant que le maître Xuan Hua ne fonde le monastère de Gold Mountain à San Francisco en 1970 et qu'il se mette à enseigner aux Occidentaux son approche intensive qui incluait la gamme complète des pratiques du Chan. Depuis sa mort en 1995, les successeurs de Xuan Hua continuaient de diffuser son enseignement en Occident. En Corée, la pratique zen s'était fermement installée au VIe siècle, avant même d'avoir été introduite au Japon, et elle y régna en tant que principale forme de bouddhisme pendant de nombreux siècles. Bien qu'il ait été interdit sous la dynastie Yi, 1392-1910, le zen coréen, Son en coréen, a réussi à survivre et il est devenu une école bouddhiste vitale en Occident aux côtés du zen japonais. Outre le maître Sung Chan, dont l'école Kwan Hum est associée à des centres zen affiliés à travers tout le monde occidental, plusieurs autres instructeurs coréens ont de nombreux disciples. Bien que la méditation ait toujours été la première méthode, le zen coréen met aussi l'accent sur les pratiques de la psalmodie et des révérences formelles. Comme le Vietnam, de même que la Corée, est frontalier de la Chine, le bouddhisme s'y enracina au 1er siècle de notre ère, et avec le temps, c'est le zen qui devint l'école prédominante. Le maître de zen vietnamien Thich Nhat Hanh, écoutez le chapitre 15, est probablement le plus connu de ceux qui enseignent en Occident, mais le moine bouddhiste et érudit Thich Thien Hanh l'a précédé. Thien Hanh arriva à Los Angeles en 1966 comme professeur invité à l'université UCLA et y resta jusqu'à sa mort en 1980 pour enseigner à ses étudiants occidentaux assidus.
Depuis environ 30 ans, une autre excroissance du bouddhisme Mahayana, le Vajrayana, véhicule de diamant, rivalise de popularité avec le bouddhisme zen en Occident. Le Vajrayana est qualifié de nombreux noms un peu mystérieux, notamment tantra et véhicule ésotérique, mais la plupart des gens l'appellent simplement bouddhisme tibétain d'après le pays auquel on l'associe le plus. Pourtant, le Vajrayana n'est pas une invention tibétaine, contrairement à ce que certains auteurs connus croyaient auparavant. C'est un produit des mêmes développements bouddhistes originaires de l'Inde qui générèrent les autres traditions Mahayana mentionnées plus haut dans ce chapitre. Comme les autres formes de bouddhisme, le Vajrayana assure transmettre l'enseignement authentique du Bouddha, bien que les textes, appelés tantras, de cette approche, ne soient apparus que bien après la disparition du Bouddha Shakyamuni. Quoique certains historiens, et même d'autres bouddhistes, puissent avoir des difficultés à accepter ces leçons tardives comme la vraie parole du Bouddha, les adeptes du Vajrayana affirment, comme ceux d'autres traditions Mahayana, que le Bouddha donna durant sa vie terrestre de nombreux discours qui étaient trop avancés pour pouvoir être largement diffusés. Le Tantra était le plus puissant de ses enseignements, et par conséquent, c'est celui qu'il était le plus facile de détourner de sa destination d'origine. Les adeptes du tantrisme ont donc conservé volontairement ces leçons à l'abri du public général et ne les ont transmises qu'à ceux qui pourraient en bénéficier. Les adeptes ultérieurs ont ensuite diffusé plus largement ces enseignements, encore qu'ils l'aient fait avec une certaine discrétion destinée à éviter qu'ils soient détournés de leur but et qu'ils ne dégénèrent. Bien que secret, le bouddhisme Vajrayana était pratiqué en Inde sous une forme ou une autre au 5e siècle. Il fut ensuite introduit en Chine au 8e siècle avec l'école Mitsung, ou ésotérisme chinois. Cette école n'a existé qu'un seul siècle en Chine, mais le moine japonais Kukai, 774-836, l'introduisit au Japon. Il fit ériger en 816 un temple sur le mont Koya, qui demeure le centre de ce qui devint au Japon la tradition du Qigong. N'oubliez pas. Bien que le Qigong soit encore aujourd'hui pratiqué au Japon, il n'est ni aussi développé ni aussi achevé que le Vajrayana, car ce dernier continua d'évoluer en Inde après le 8e siècle. perpétués par des maîtres de méditation appelés Mahasiddha, ceux qui sont grandement réalisés, la tradition Vajrayana fleurit pour finalement devenir un élément majeur de la formation dispensée aux célèbres universités monastiques du nord de l'Inde, comme Vikramashila et Nalanda. Écoutez le chapitre 9. La destruction de Nalanda en 1199 par des envahisseurs musulmans marqua la fin du Vajrayana et du bouddhisme tout court en Inde. Au début du XIIIe siècle, le bouddhisme n'était plus une religion viable dans son pays d'origine, bien qu'il ait laissé une empreinte durable sur la culture de ce vaste sous-continent. Heureusement, alors que le bouddhisme s'éteignait en Inde, la tradition Vajrayana mûrie en Inde était déjà fermement établie au Tibet et dans les régions environnantes de l'Himalaya grâce aux efforts de Mahasiddha comme Padmasambhava et Atisha. Bien que la tradition ait atteint la Mongolie et la Sibérie, et soit même retournée en Chine, le Tibet resta le centre du monde Vajrayana pendant des siècles, préservant intacte la tradition vitale des enseignements tantriques jusqu'à l'invasion brutale du pays par des communistes chinois dans les années 1950. Il reste que la perte pour le Tibet a signifié le gain pour le reste du monde. En effet, de par la fuite du Dalai Lama accompagné d'un nombre relativement faible, mais quand même significatif, d'autres grands maîtres qui quittèrent le Tibet pour s'exiler en Inde en 1959, le bouddhisme Vajrayana est devenu accessible en Occident à un point jamais atteint auparavant. N'oubliez pas, comme d'autres traditions bouddhiques, la pratique Vajrayana vise à l'obtention de l'éveil. Cette tradition se distingue pourtant des autres par la richesse des différentes méthodes dont elle se sert pour amener l'éveil aussi rapidement que possible. Certaines de ces méthodes comprennent des rituels complexes avec de la musique, des psalmodies, des ustensiles symboliques, des positions du corps et des gestes symboliques, appelés mudras, des diagrammes mystiques, mandalas, et des incantations, mantras. D'autres méthodes sont cachées à la vue extérieure et ne se déroulent que dans le corps et l'esprit de l'adepte, de la méditation Vajrayana. Externe ou interne, ces diverses méthodes visent, au bout du compte, à réaliser la transformation radicale de la bouddhéité. Selon le Vajrayana, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour atteindre totalement et complètement l'éveil. Et pour que cet éveil devienne une expérience vivante et ne reste pas seulement un potentiel en sommeil, vous devez surmonter certaines habitudes tenaces, dont la principale est la tendance à vous identifier consciemment ou non à un être limité. Cela signifie que vous vous êtes habitué à vous considérer comme un soi ou égo, séparé ou fragmenté, endommagé par les illusions de la haine, de l'avidité et de l'ignorance. Écoutez le chapitre 2. Cela entraîne pour conséquence que vous êtes gravement limité dans votre capacité à agir, à parler et à penser d'une manière qui apporte le bonheur à vous-même comme aux autres. La solution spécifiquement tantrique au problème issu du fait que l'on s'accroche à un soi et donc à une identité limitée est celle de la pratique du yoga de la déité. Cette pratique n'a rien à voir avec les dieux et les déesses qui profitent des royaumes célestes mentionnés au chapitre 13. Au contraire, cette pratique permet à l'adepte de dissoudre son identité limitative et fausse pour la remplacer par quelque chose de nettement mieux. Au moyen de cette pratique profonde, l'adepte doit s'entraîner à se voir comme étant un être éveillé, un Bouddha complètement mûr, libre de toute limitation, avec un corps, des paroles et un esprit brillamment pur et divin, à travers lesquels il peut apporter aux autres un bienfait infini. L'être éveillé avec lequel le pratiquant s'identifie s'appelle en tibétain le Yidam, ou divinité de méditation. S'il est pratiqué de façon impropre, sans la compréhension adéquate, le yoga de la déité peut facilement dégénérer pour devenir une forme d'illusion dans laquelle le pratiquant fourvoyé prétend tout simplement être quelque chose qu'il n'est pas. Pour éviter ce piège, il doit construire sa pratique sur des fondations solides. Pour commencer, il faut bien connaître les notions de base du sentier Mahayana en général, et en particulier la génération de compassion universelle ou bodhicitta. Pour en apprendre davantage sur le bodhicitta, écoutez le chapitre 14. Puis, il doit mener à certaines pratiques rituelles appelées préliminaires, en tibétain gondro, qui sont destinées à le préparer aux pratiques principales en lui faisant emmagasiner une grande réserve d'énergie positive et en le purgeant de certains obstacles intérieurs. Un exemple de ces pratiques de recueil d'énergie et de purification consiste à exécuter, offrir, des prosternations complètes. Écoutez le chapitre 8. N'oubliez pas. Le fondement le plus important de la pratique réside dans la relation de l'adepte avec son maître tantrique parfaitement qualifié ou gourou. Le gourou, ou lama en tibétain, joue un rôle pivot dans le Vajrayana. Et il est si capital que certains anciens commentateurs occidentaux appelaient lamaïsme le bouddhisme tibétain, un terme erroné qui, heureusement, n'est plus employé. Le gourou est indispensable parce qu'il, ou elle, présente l'adepte à la déité de méditation qui sera le point de mire de la pratique de l'adepte. Lors de la cérémonie de transmission du pouvoir, en tibétain Wang, durant laquelle le maître tantrique initie l'adepte à la pratique de la déité de méditation, celui-ci ne doit pas se laisser distraire par les apparences ordinaires des choses, y compris par la forme extérieure de son gourou. Au contraire, il doit le visualiser comme étant inséparable de la forme transcendantale du Bouddha Shakyamuni, appelé Vajradhara. Finalement, sa pratique du yoga de la déité sera couronnée de succès lorsqu'il aura acquis la conviction inébranlable que son gourou, sa déité de méditation et tous les Bouddhas sont identiques à la nature essentielle de son propre esprit. Par la pratique du yoga de la déité, l'adepte s'accoutume progressivement à être éveillé. Les bienfaits et l'inspiration de son gourou l'aident à lui donner le pouvoir de considérer son corps comme le pur corps de lumière de sa déité de méditation, radieux et divin. Au lieu de sa parole habituelle, il récite le son de son mantra. Il s'entraîne à entendre tous les sons comme étant indifférenciables de son mantra. Dans le même temps, il considère que son environnement est la terre pure de Tara, chant de Bouddha, et toutes ses activités comme les activités sages et empreintes de la compassion de Tara, qui vise à libérer les autres de la souffrance. Finalement, il fait l'expérience directe que son propre esprit et l'esprit éveillé de Tara ne font qu'un. Au stade de début de la pratique, l'identification de l'adepte et de la déité de méditation comme ne faisant qu'un se déroule en grande partie, si ce n'est pas complètement, dans l'imaginaire de l'adepte. Mais à des stades ultérieurs, une fois qu'il est devenu habile à contrôler et à diriger les énergies subtiles qui circulent à travers son corps, écoutez le chapitre 11 pour en savoir plus sur ces énergies subtiles, il pourra réellement faire l'expérience de la transformation éveillée qu'avant il ne pouvait qu'imaginer. Finalement, l'adepte pourra suivre la voie tracée par le bien-aimé yogi Milarepa du Tibet. Par son intense dévotion envers son gourou Marpa et sa pratique inébranlable, il parvint à la bouddhéité durant sa vie terrestre. Le bouddhisme Vajrayana comprend de nombreuses autres méthodes que celles que nous avons brièvement évoquées ici, mais ce bref résumé vous permettra de vous faire une idée de la raison pour laquelle il a attiré un nombre grandissant d'adeptes occidentaux ces dernières années. Pour ceux qui aiment les rituels, les nombreux centres de bouddhisme tibétain en Occident organisent régulièrement des séances de groupe avec récitation de mantras, psalmodies et autres pratiques rituelles. Pour ceux qui préfèrent la simple méditation, le Vajrayana présente une grande variété de pratiques, depuis les visualisations élaborées au simple repos dans la pureté originale de l'esprit. Cette tradition présente aussi des possibilités d'études académiques, comme le démontre le nombre croissant rapidement de traductions et de commentaires disponibles. Mais au bout du compte, les lamas chaleureux et compatissants qui enseignent le Vajrayana constituent probablement l'élément le plus attrayant de cette tradition. Chaque centre a son propre style et sa propre orientation qui dépendent de l'instructeur et de la tradition de Vajrayana qu'il ou elle enseigne. Écoutez le passage « Les écoles Vajrayana tibétaines » pour en savoir plus. Les centres Shambhala, qui furent fondés par Feu Shogyam Trungpa Rinpoche, 1939-1987, sont probablement ceux qui sont les plus répandus. Trungpa fut un auteur prolifique et l'un des premiers instructeurs tibétains à adopter un style vestimentaire occidental ainsi qu'à se familiariser à la psychologie et aux coutumes occidentales. Mais il existe aujourd'hui de nombreuses autres approches dans toute l'Amérique du Nord et en France, y compris une nouvelle génération de centres menés par des instructeurs occidentaux entièrement autorisés.
Les écoles Vajrayana tibétaines. Alors que le Vajrayana se diffusait au Tibet à partir de l'Inde, plusieurs écoles ou sectes différentes émergèrent dans ce pays. Ce terme technique n'ayant dans ce contexte particulier pas la connotation négative qu'on lui donne normalement en France. Bien qu'il y ait toujours eu une fécondation croisée entre ces différentes écoles, chacune possède son propre caractère distinctif. Voici les écoles qui ont le plus d'influence sur le bouddhisme tibétain pratiqué aujourd'hui en Occident. Le Nyingma. Cette tradition est la plus ancienne des écoles de bouddhisme tibétain. Son nom signifie « les anciens ». C'est Padmasambhava qui la créa et fonda le monastère Samye, le premier du Tibet au 8e siècle. Parmi les nombreux lamas responsables de l'introduction de la lignée Nyingma en Occident, on compte Dilgo Khyentse Rinpoche, 1910-1991, qui fut un grand instructeur de lamas de toutes les traditions, Tartang Tulku, qui, en Californie, fonda le centre de méditation Tibetan Nyingma Meditation Center et le lieu de retraite Odian Retreat Center. Namkhai Norbu Rinpoche, qui vit en Italie et enseigne régulièrement aux États-Unis, et Sogyal Rinpoche, qui se trouve à la tête des centres Rigpa dans le monde entier et qui a écrit le livre tibétain de la vie et de la mort, édition de la Table Ronde, Paris 1993. Un succès de librairie aux États-Unis. Le Kadam, cette école fut fondée par les successeurs d'Atisha, qui arriva au Tibet depuis l'Inde en 1042. Bien qu'elle n'existe plus aujourd'hui en tant qu'entité indépendante, les trois écoles qui suivent ont assimilé son enseignement et continuent de le transmettre. Le Sakya, sa sainteté, le Sakya Trizin, qui se trouve actuellement à la tête de cette tradition, parle couramment l'anglais et a beaucoup enseigné et voyagé en Occident. Parmi les autres lamas du Sakya, qui ont enseigné aux États-Unis, on trouve Deshung Rinpoche, 1906-1987, Jigdal Dagchen Rinpoche, du centre Sakya Tekchen Sholing à Seattle, et le lama Kunga de Kensington, en Californie. Le Gakyu, l'ancien chef de la tradition Gakyu, le 16e Karmapa, 1923-1981, se rendit à plusieurs occasions aux États-Unis et inaugura officiellement son principal centre, le Karma Triana Dhammachakra à Woodstock, dans l'État de New York. Après sa disparition à Chicago, son incarnation renaquit au Tibet et s'échappa en Inde en 2000. Ses nombreux centres en Occident attendent maintenant avec impatience son retour. Parmi les autres lamas de l'école du Gakyu, qui ont fondé des centres et beaucoup enseigné en Occident, citons Kalu Rinpoche, 1905-1989, considéré en général comme l'un des plus grands maîtres de méditation Vajrayana du XXe siècle. Trangu Rinpoche et le lama Lodo Rinpoche du centre Kagyu Droden Kunchab de San Francisco. Le Gelug. De nombreux lamas ont représenté cette école en Occident, y compris feu les instructeurs du Dalai Lama. Parmi les autres lamas remarquables de cette tradition qui ont eu un impact considérable en Occident, on peut citer Geshe Wangyal, 1901-1983, qui fonda des centres à Freewood, Acre et à Washington, dans le New Jersey, aux États-Unis. Geshe Lundrup Sopa, professeur à la retraite de l'Université du Wisconsin, et le lama Thubten Yeshe, 1935-1984, de même que Thubten Sopa Rinpoche de la Fondation pour la sauvegarde de la tradition Mahayana. Le mouvement Rime. Ce mouvement combine plusieurs lignées importantes de pratiques Vajrayana. L'un des principaux inspirateurs de ce mouvement non organisé en secte fut Jamyang Khyentse Chöki Lodro, 1896-1969. De nombreux disciples de Jamyang Khyentse sont ou furent des instructeurs influents en Occident, y compris Deshung Rinpoche, Dilgo Khyentse Rinpoche, Kalu Rinpoche, Sogyal Rinpoche et Tartang Tulku, tous mentionnés plus haut.